Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche, vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour et bonsoir, amis auditeurs, selon l'heure que vous nous suivez. En ce samedi 1er mai 2021, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Rapprochement Iran-Arabie Saoudite, est-ce possible? Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, les négociations de Vienne sont positives et satisfaisantes malgré les difficultés. Déclaration de Mahmoud Voaezi, directeur du bureau présidentiel. Retour au respect du JCPOA. Pour Washington, les négociations indirectes Irano-US sont peu efficaces. Et puis le report des élections législatives est contre les intérêts nationaux de la Palestine, a réagi Hamas, qualifiant la décision d'Abbas de coup d'État. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le directeur du cabinet du président de la République islamique d'Iran, Mahmoud Voaezi, a qualifié les négociations de Vienne sur l'accord nucléaire de satisfaisantes et positives, malgré les difficultés et les divergences d'opinion. Les négociations de Vienne traversent des jours fatidiques et malgré l'existence de certaines difficultés, l'atmosphère est positive et si le cours se poursuit, ainsi nous assisterons à des progrès à Vienne, a déclaré vendredi Mahmoud Voaezi. Le gouvernement et l'équipe de négociations iraniennes sont engagés dans des négociations dans le cadre défini par les hauts responsables du pays, dans les conditions fixées par le leader de la révolution. Et dans cette voie, nous cherchons dans les négociations à relancer l'accord nucléaire et à lever l'embargo à la lumière de toutes les considérations, lois et cadres spécifiques, a-t-il ajouté. Tout en décrivant l'avenir économique du pays comme prometteur, le responsable a précisé qu'avec la levée des sanctions injustes imposées au peuple iranien, des jours meilleurs attendent l'économie du pays et les moyens de subsistance du peuple, c'est sûr, le gouvernement fait ses efforts sans perdre l'occasion d'atteindre cet objectif. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, a déclaré que les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire iranien de 2015 se trouvent dans une situation peu claire. Les commentaires de Jack Sullivan interviennent alors que l'Iran et les autres signataires de l'accord devraient tenir une autre série de pourparlers dans la capitale autrichienne. Ces derniers font la navette entre les délégations américaines et iraniennes. Jack Sullivan a déclaré que toutes les parties, y compris l'Iran, ont montré une volonté sérieuse, je cite, de reprendre le chemin vers la relance de l'accord. Cependant, il a déclaré qu'il ne sait toujours pas si le processus aboutirait à un accord. Des responsables de l'Iran, de la Grande-Bretagne, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Russie et de l'Union européenne ont déjà tenu trois séries de pourparlers. Téhéran a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'accepterait le résultat des pourparlers qu'une fois que Washington aurait supprimé toutes les sanctions de manière vérifiable. Téhéran a également averti qu'il ne permettra pas que les négociations de la commission mixte viennent de se transformer en un outil d'usure contre l'Iran. L'Iran n'oubliera pas ses partenaires de l'ère des sanctions. Nous n'oublierons pas les pays partenaires au cours des sanctions. Notre politique est basée sur ce principe que les investisseurs étrangers produisent leurs marchandises à l'intérieur de l'Iran. Nous devons prêter une attention particulière à l'entrée de la technologie et de la production à l'intérieur et nous ne devons pas être de simples consommateurs, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique. Dans une interview accordée à l'IRNA, Rasul Mohajer a annoncé la formation du poste spécial du vice-ministre chargé de la diplomatie économique au sein du ministère iranien des Affaires étrangères et a insisté sur le rôle de cette structure dans les relations extérieures de la République islamique d'Iran. Nous sommes confrontés à une guerre économique à part entière. Le gouvernement et toutes les différentes institutions américaines ont cherché et cherchent à fermer toutes les ouvertures économiques de l'Iran. L'usage de l'expression d'une véritable guerre économique n'est pas une exagération. Ces dernières années, toutes nos banques et tous nos navires ont été sanctionnés et les Américains ont tenté d'empêcher tout navire iranien de naviguer, a insisté le diplomate de haut rang iranien. Soulignant la nécessité de se concentrer davantage sur les pays voisins, ce responsable iranien a précisé, je cite, « Nos principaux partenaires économiques sont aujourd'hui des pays comme l'Irak, l'Afghanistan et les Émirats arabes unis. » Faisant référence à la croissance des exportations non pétrolières de l'Iran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « En raison de la propagation du coronavirus, nous avons été témoins de la récession économique de divers pays à travers le monde. L'économie iranienne n'était pas à l'abri de la récession et en plus des effets de l'épidémie de COVID-19, l'économie iranienne était aux prises avec des sanctions américaines sévères. Malgré ces circonstances, nous avons essayé d'améliorer nos relations et surtout de développer nos liens avec nos voisins et des pays importants comme la Chine, l'Inde et la Russie. L'actualité régionale avec la Palestine, le mouvement de résistance palestinien Hamas, insiste une fois de plus sur la tenue des élections législatives palestiniennes à la date prévue. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré que le mouvement de la résistance était prêt à coopérer avec toutes les factions politiques palestiniennes en faveur du bon déroulement du scrutin, dénonçant la décision de Mahmoud Abbas pour un report à une date indéterminée des premières élections en 15 ans en Palestine. Haniyeh l'a qualifié de peu convaincante. Auparavant, le mouvement avait décrit la décision comme un coup d'État pour Hamas. Le report des élections législatives palestiniennes va à l'encontre des intérêts nationaux de la Palestine. Le chef de l'autorité autonome palestinienne Mahmoud Abbas a reporté les élections, justifiant que le scrutin n'est toujours pas garanti à Rotsest, occupé par Israël. Les autorités palestiniennes ont blâmé le régime de Tel Aviv pour l'incertitude quant à savoir s'il autoriserait le déroulement des élections à Al-Quds occupée. Les États-Unis ont officiellement commencé à retirer leurs troupes restantes d'Afghanistan. Des hélicoptères américains ont été vus survolant Kaboul et la base aérienne voisine de Bagram, alors que Washington préparait le processus de retrait. Les responsables américains ont également confirmé le retrait des troupes, affirmant que le 1er mai n'était qu'une continuation. Les forces américaines devraient partir d'ici le 1er mai en vertu d'un accord signé entre les talibans et l'administration de l'ancien président Donald Trump. Les talibans accusent Washington de violer l'accord. Cependant, le président sortant, Joe Biden, a promis de mettre fin à ce qu'il a appelé la guerre pour toujours. Il a déclaré que toutes les troupes quitteraient l'Afghanistan d'ici septembre. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU se dit troublé par l'usage de la force par la police bahreïnie contre un sit-in pacifique dans la principale prison du royaume. Le porte-parole de l'organisation a qualifié d'inutile et d'inapproprié la répression violente dans la célèbre prison de Jao. Elle a appelé le gouvernement bahreïnien à ouvrir immédiatement une enquête approfondie et efficace sur l'incident. Les prisonniers ont commencé leur sit-in le 5 avril après la mort d'un détenu politique qui se serait vu refuser l'accès en temps opportun aux soins de santé essentiels. Les militants affirment que les forces de sécurité bahreïni ont fait recours à une répression dure contre les prisonniers et ne cessent de les battre et de les blesser. Le régime des Al-Khalifa fait face à des critiques sur la situation de ses prisons au milieu de la crise sanitaire du Covid. L'effroyable situation carcérale a également suscité des protestations parmi les familles des détenus. Enfin, de hauts responsables de l'Union européenne critiquent la Russie et menacent de prendre des contre-mesures après que Moscou ait imposé des sanctions d'entrée à 8 responsables de l'Union européenne. Les chefs du Conseil européen, de la Commission et du Parlement ont déclaré avoir condamné les sanctions dans les termes les plus fermes. Les chefs de l'Union européenne ont déclaré que les interdictions d'entrée étaient inacceptables et totalement sans fondement. Vendredi, Moscou a annoncé cette mesure en représailles aux interdictions de l'Union européenne à l'encontre de 4 hauts responsables russes. Les interdictions de voyage visent entre autres le chef du Parlement européen et le vice-président de la Commission européenne. Les tensions sont vives entre Moscou et Bruxelles à propos de l'empoisonnement présumé de la figure de l'opposition russe, Alexei Navalny, l'année dernière. Moscou rejette toute implication, affirmant que l'Occident, en intervenant dans les affaires intérieures de la Russie et en les politisant, cherche à faire pression sur la Russie pour assurer ses intérêts intéressés. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Iran-Arabie, une paix est possible. Selon le magazine américain Foreign Policy, le changement de ton des Saoudiens envers l'Iran provient principalement de la réduction de la présence américaine dans la région de l'Asie de l'Ouest, mais aussi de leur méfiance à l'égard des États-Unis. Washington ayant tourné le dos au conflit dans la région, ses alliés ont été forcés à recourir à la diplomatie. L'une des principales raisons du changement de ton du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à l'égard de l'Iran est que Washington, son plus grand appui, réduit fortement sa présence et le nombre de ses troupes dans la région, affirme Foreign Policy. Pour Foreign Policy, les récentes déclarations de Mohammed bin Salman pourraient faire référence aux pourparlers à huis clos entre l'Iran et les pays arabes en Irak. Les pourparlers qui, selon le magazine, pourraient affecter non seulement les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, mais aussi la sécurité de la région dans son ensemble. Foreign Policy de poursuivre que cela ne signifie pas que les États-Unis n'ont pas été impliqués dans ce processus, mais il y a des indications claires qui montrent que le retrait des troupes américaines de la région d'Asie occidentale a contraint les acteurs régionaux à poursuivre la diplomatie. Lors de sa campagne électorale de 2020, rappelle le magazine, le président américain Joe Biden s'est engagé à retirer la plupart des troupes américaines d'Afghanistan, à suspendre l'aide aux Saoudiens dans la guerre contre le Yémen et à revenir à un accord nucléaire avec l'Iran. Les 3 décisions qui s'inscrivent dans le cadre de la réduction de l'implication américaine dans la région. Foreign Policy explique que les puissances régionales recourent maintenant à la diplomatie pour une raison simple. En effet, il y a toujours eu des opportunités diplomatiques, mais jusqu'à présent, les alliés américains ont rejeté la diplomatie et se sont appuyés sur Washington pour résoudre leurs problèmes. Le retrait de Biden de la région de l'Asie occidentale signifie que les Saoudiens ont perdu la confiance envers les États-Unis. Dans une interview accordée mardi 27 avril à la télévision publique saoudienne, Mohammed bin Salman a déclaré « La politique étrangère saoudienne est basée sur ses intérêts et l'Arabie saoudite travaille pour renforcer l'alliance avec tous ses partenaires dans le monde ». L'Arabie saoudite est intéressée à établir de bonnes relations distinctives avec l'Iran, a souligné le prince héritier saoudien. Le changement de ton de l'Arabie saoudite a été salué par les pays de la région, entre autres le Qatar et le Pakistan. Ainsi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré jeudi soir que l'Iran accueillait favorablement le changement de position de l'Arabie saoudite. Interrogé sur les récents propos de Mohammed ben Salman concernant les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Saïd Khatibzadeh a répondu que ces deux pays importants de la région et du monde islamique peuvent, en se basant sur une approche fondée sur le dialogue, surmonter les différends et entrer dans une nouvelle ère d'interaction et de coopération pour parvenir à la paix, à la stabilité et au développement régional. La République islamique d'Iran, en présentant des plans de dialogue et de coopération dans la région du Golfe Persique, y compris l'initiative de paix d'Ormuz, est un pionnier sur la voie de la coopération régionale et se félicite du changement d'approche de la part de l'Arabie saoudite.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors la France gère mal la situation, même très mal. Jamais la France n'avait connu un tel 1er mai, des sentiments de révolte sans précédent et bien sûr des cris de haine jamais entendus dans les années précédentes. Est-ce que la France est au bord de la guerre civile comme la craignent les responsables militaires où elle se trouve déjà dans une guerre civile? Beaucoup de violences ont éclaté entre les manifestants et les CGT. Donc nous allons voir tout à l'heure avec des experts des questions internationales qui vont faire vivre ce débat, le débat d'aujourd'hui. Mais avant cela, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Voyez, restez avec nous, je vous prie.
La fin de la manifestation parisienne du 1er mai a été marquée par de graves violences commises par des individus présents dans le cortège contre les militants CGT, membres du service d'ordre. Le syndicat a condamné l'attaque. Alors que le cortège parisien arrivait après de nombreux déboires à la place de la Nation le 1er mai, des militants CGT ont violemment été pris pour cible par un groupe d'individus présents dans le cortège. Dans de nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux, on voit le service d'ordre du syndicat reculer, tant bien que mal, sous une pluie d'insultes et de projectiles. Dans une vidéo réalisée sur place, on voit ces individus dégrader des véhicules du syndicat avant de faire face aux militants. Au cours du face-à-face, les deux camps se traitaient de fascistes, CGT collabo, votant par ailleurs tagués sur des véhicules. Dans d'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit un membre de la CGT s'effondrer après avoir été frappé par derrière au cours de l'interaction. Dans un communiqué publié dans la soirée, la CGT a condamné aussi bien les violences commises par les forces de l'ordre sur le parcours que celles perpétrés par des manifestants contre ses propres militants. Insultes homophobes, sexistes, racistes ont précédé des actes de vandalisme sur les véhicules des organisations. Et bien plus grave, la haine s'est exprimée par un déchaînement de coups et de jets de projectiles. La CGT était particulièrement ciblée. Quant aux agresseurs, la CGT évoque un important groupe d'individus. Les syndicats déplorent 21 blessés, dont 4 graves. Le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, a quant à lui dénoncé sur LCI des erreurs graves dans la gestion de la manifestation par les autorités, qui n'auraient selon lui fait qu'aggraver les choses en bloquant le cortège. Il a qualifié de scandaleux le caillassage des camions du syndicat. Il y a malheureusement depuis quelque temps des gens qui viennent pour faire autre chose que manifester. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la puissante mobilisation de ce 1er mai, a-t-il encore déclaré. Cela fait des années que les Black Blocs pourrissent les manifestations pour le seul bénéfice des pouvoirs en place, a réagi pour sa part le député communiste Stéphane Pau.
Alors quand on voit ces images, c'est difficile à croire que nous sommes en France. Donc des violences sans précédent, des sentiments de révolte sans précédent. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Luc Michel, géopolitologue, politicien depuis Bruxelles. Monsieur Luc Michel, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour de retrouver mon collègue Hugo, c'est toujours un plaisir. Surtout bonjour à nos téléspectateurs.
Merci à vous. Justement, un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà.
Et bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et bien sûr à Luc Michel.
Un plaisir de vous accueillir dans l'émission Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, en quoi, à votre avis, ce 1er mai était différent des années précédentes, surtout qu'un sentiment de révolte, des cris de haine jamais entendus depuis des années précédentes?
Tout d'abord, les Français étaient frustrés. Ça a été la même chose en Belgique, parce qu'il n'y avait rien eu l'année précédente en raison de la pandémie, mais surtout parce qu'il y a eu une colère, une explosion sociale qui monte, une colère sociale qui monte. Il y a des gens ruinés qui vivent aux portes de la misère. Il y a un énorme déclassement social. Et face à cela, il y a des jeux politiciens. Vous avez vu la violence qui était menée contre la CGT. La violence, elle est menée par des groupes qui sont soi-disant antifa et des groupes qui sont soi-disant de droite radicale. Ils sont bien connus des services de police politique, mais on ne les arrête pas et on les laisse faire. On a un peu l'impression, pour moi, ce n'est pas une impression, mais une tactique, qui est une stratégie de l'attention, c'est-à-dire qu'on les laisse se déployer pour saboter les manifestations, comme on l'a fait pendant les manifestations des Gilets jaunes. On a vu le 1er mai, d'ailleurs, le retour des Gilets jaunes. On sait que ces groupes antifa et ultra-gauche sont des groupes qui sont utilisés par les polices politiques. À gauche, il y a des groupes qui sont dans l'orbite du milliardaire américain George Soros, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ils sont notoirement liés à la police. Il y a une vingtaine d'années, le groupe britannique antifa Searchlight était lié au MI5 britannique. Et en Belgique, par exemple, nous avions un groupe antifasciste à Anvers qui était dirigé par le fils d'un commissaire de la Sûreté de l'État, la police politique belge. Et à Bruxelles, le même groupe était dirigé par un fonctionnaire des services du Premier ministre. C'est la même chose en France. Depuis une époque qui remonte à une soixantaine d'années, ça a toujours été la spécialité de la Ve République, la manipulation de groupuscules servant la police.
Oui.
Indépendamment de l'explosion sociale, il y a l'impression qu'ont les gens et qui est justifiée, qu'on ne s'occupe plus d'eux. Pendant ce temps-là, Macron se livre à des jeux politiques et tente d'emprisonner les Français à nouveau dans un face-à-face Macron-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Il pense que, inévitablement, il va gagner ce face-à-face. Cette fois-ci, en 2022, c'est une grave erreur de jugement parce que le néofascisme français de Le Pen a gagné en ampleur et a gagné dans l'opinion publique. Et pour le moment, bien loin de s'opposer au Front National, Macron tente, avec Marine Le Pen, de s'emparer de la droite parlementaire classique. Ce sont les événements qui se passent depuis 48 ans dans la région Provence-Côte d'Azur.
Oui.
Donc on est dans une zone de danger avec un mécontentement extrême du peuple. Et moi, je prédis à court terme une gigantesque explosion sociale. La violence sociale, la haine, les affrontements avec la police, c'est aussi bien en France qu'en Belgique ou en Allemagne. C'est devenu aujourd'hui, on l'a vu également dans un pays paisible comme les Pays-Bas, il y a une espèce de vague de colère qui est en train de monter dans toute l'Union européenne.
Tout à fait. Merci. Monsieur Philippe Hugon, depuis Paris. Alors, Monsieur Hugon, nous avons une forte impression que les Français ont été laissés pour compte, car ce sentiment de révolte est bien différent des autres pays. Est-ce que c'est lié au Covid ou c'est bien autre chose?
Oh non, c'est pas lié au Covid. Hein. C'est un malaise qui existe depuis très longtemps. Mais je pense que sur cette question, il faut séparer en deux volets le problème. Il y a d'une part... C'est cette dictature qui est en train d'être mise au point pour différentes raisons, hein, la surpopulation, le manque de travail, les bas salaires, la vie difficile que les Français subissent maintenant depuis très longtemps. Et puis, il y a d'autre part la CGT qui a été victime d'attaques. Alors, en ce qui concerne la CGT, c'est des gens que je ne plains absolument pas, puisque ce sont des gens qui n'ont pas hésité à utiliser la violence dans un grand nombre de manifestations il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont littéralement saboté l'économie française il y a 40 ans, et notamment, on l'a vu chez Renault et dans bien d'autres grandes sociétés françaises. Donc, je dirais que la CGT a récupéré un petit peu, a récolté ce qu'elle a semé depuis 40 ans. Voilà, en ce qui concerne ça, c'est le volet purement CGT. Hein. Alors, bien sûr qu'il est anormal qu'on puisse avoir ce genre de réaction dans des manifestations, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un système qui est en train de se mettre en place. C'est un système incontrôlable et incontrôlé, et on va arriver à des débordements de plus en plus violents jusqu'à ce qu'on arrive à non seulement un effondrement financier qui déclenchera un effondrement social où la violence sera extrêmement rapide et extrêmement violente dans toutes les manifestations qu'on pourra avoir en France dans les années qui viennent. Quand je dis en France, mais c'est également en Europe. Donc on est aujourd'hui au commencement, d'une fin d'une certaine forme de la société française.
Oui. Monsieur Luc Michel, d'après des experts politiques, et comme le craignent des responsables militaires français, ils l'ont exprimé dans une lettre donc à Emmanuel Macron, ils craignent une guerre civile. Est-ce que cette guerre civile est déjà sur place ou bien est-ce qu'il faut l'attendre ?
Des éléments de guerre civile, tout simplement parce que la violence, elle est à l'œuvre dans la jeunesse. La jeunesse n'en peut plus d'avoir sa vie ravagée par la pandémie. Et comme le disait M. Hugo, on assiste dans tout l'Occident à ce qu'on appelle la montée des coronadictatures. On a dans les constitutions maintenant occidentales les mesures de l'état d'urgence qui est exceptionnel, provisoire, qui sont coulées en choses permanentes et jugées. On a donc cette violence, et face à cela, il y a la violence de l'État. Il y a des violences policières inacceptables, et elles existent parce que ces gens ont reçu des assurances, des garanties, parce que leur propre État est en train de les exciter. Il y a eu deux grandes fêtes de la jeunesse, je dis bien des fêtes pacifiques, qu'on a appelées la Boum et la Boum 2. La dernière s'est tenue ce 1er mai au centre de Bruxelles dans une espèce de parc qu'on appelle le Bois de la Corde, et la police est intervenue. On n'a pas traqué, chargé avec des chevaux, casé, attaqué à l'autopont des familles, des enfants, des pères de famille. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable. Et derrière, il y a évidemment un plan. Moi, je ne suis pas complotiste. Je ne dis pas que la pandémie est organisée, mais je dis qu'elle a été prise par les éléments dirigeants du système capitaliste comme ce qu'on peut appeler une divine surprise. Vous savez que le terme de divine surprise avait été employé par l'extrême droite française lorsqu'elle était arrivée au pouvoir en 1940, lors de la défaite française face aux nazis. Elle avait été prise comme une divine surprise pour amener Philippe Pétain au pouvoir. C'est un peu pour les capitalistes une divine surprise. Il y a des théories et des plans qui sont à l'œuvre. Vous savez qu'on a diabolisé Bill Gates, mais Bill Gates, ce n'est pas un assassin qui manipule les vaccins, mais c'est quelqu'un qui est un théoricien de ce qu'on appelle le néo-malthusianisme. Qu'est-ce que c'est la théorie ? C'est qu'il n'y a pas assez de cartons, c'est leur expression, pour être partagé au niveau de la richesse par tout le monde. Il faut donc réduire la population mondiale, il faut moins de gens qui participent à cette richesse et à cette prospérité au profit de quelques milliardaires, et surtout, il faut contenir cette population par la transformation des démocraties en des semi-dictatures, ce qu'on appelle des démocratures. On voit aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, on constate que à partir du moment où toute la population est en train de s'appauvrir, il y a une crise gigantesque, il y a une vingtaine de milliardaires qui ont multiplié par 4 à 200 leur fortune. Quelqu'un comme Jeff Bezos, il possède plus de 1200 milliards de dollars. C'est le patron d'Amazon qui a fait fortune. Il y a des gens comme Bill Gates, comme le milliardaire George Soros, dont je parlais, comme tant d'autres. Il y a eu hier un classement de la fortune qui a été révélé. Il y a de nouveaux milliardaires dans tout l'Occident. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine. Et le principal pays où ces milliardaires émergent, c'est précisément la France. Cette France où la colère sociale commence à être quelque chose d'insupportable. La France était déjà le pays des gilets jaunes. Je pense que l'explosion sociale va commencer là-bas et peut-être en Belgique.
Monsieur Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec la solution proposée par Monsieur Luc Michel?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense surtout que c'est l'effondrement financier qui va amener à des situations extrêmes. Il est clair, et là je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel, qu'un grand nombre de milliardaires ont multiplié leur fortune en laissant de côté les gens avec de bas salaires, avec des situations professionnelles extrêmement difficiles, d'où découlent des situations personnelles très difficiles, à savoir des divorces, des séparations, des enfants mis de côté, de la violence familiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable irresponsabilité de la part des classes dirigeantes et de la part d'un grand nombre de chefs d'entreprise, enfin, de dirigeants de grands groupes industriels, et qui prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, mais qui vont dans le sens du gain immédiat de très fortes sommes d'argent. Alors bon, moi je soutiens bien sûr le système capitaliste à condition qu'il soit mesuré et contrôlé. D'ailleurs on s'aperçoit aujourd'hui, je pense, qu'un grand nombre de petites sociétés disparaissent au profit de grands groupes industriels, et ces grands groupes industriels ont une puissance financière phénoménale, et ça leur permet bien sûr de faire de très grosses pressions sur les politiques, et les politiciens, s'ils veulent être élus, ils doivent tenir compte de ces grands présidents de groupes.
Oui. Monsieur Hugon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous croyez que les Français vont se laisser faire? Car on voit très bien dans ces images que vraiment les Français donc ont ras-le-bol de la situation, et même que le gouvernement a beaucoup profité de cette maladie pour étouffer dans l'œuf les manifestations au cours de la dernière année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi, de toute façon, les Français ne supporteront pas encore bien longtemps. Quand je dis pas bien longtemps, je pense que ça risque d'avoir, qu'on risque d'avoir une rentrée au mois de septembre très difficile, mais je pense que ça risque de demander encore 3, 4, 5 ans, 6 ans avant que la situation dégénère vraiment. D'ailleurs, les politiciens en sont bien conscients, puisqu'ils veulent mettre au point un système de rétribution des Français en minimal qui leur permettent de vivre, hein, un salaire de 1 000 euros. Beaucoup, beaucoup de gens. Et si ce système est appliqué, c'est pour désamorcer une situation explosive. Mais de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter, puisque nous avons un déficit économique qui est absolument incroyable, et cette situation ne pourra pas durer dans le temps. Donc on va arriver forcément en effondrement financier dans les 3, 4, 5 ans, 6 ans peut-être, et c'est le jour où les gens ne pourront plus se nourrir, ou une aide tellement ridicule que la situation explosera. Mais avant que cette situation arrive, il en faudra beaucoup, puisqu'on va essayer d'endormir, d'anesthésier les Français avec des aides sociales qui leur permettront non pas de vivre, mais de survivre. Et ça, les politiciens et les financiers ont très bien compris le problème, d'utiliser un anesthésique qui leur permet de garantir une certaine paix sociale. Malheureusement, comme je vous le dis, c'est reculer pour mieux sauter, puisqu'on arrivera forcément à une situation catastrophique dans les années qui viennent.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la position de Monsieur Hugon?
Oui, c'est-à-dire que depuis 1945, les démocraties occidentales, mais moi, contrairement à lui, je ne suis pas un partisan du capitalisme, les démocraties occidentales ont neutralisé le mécontentement social. Ils ont tiré les leçons des explosions communistes des années 20 et 30, puis de l'explosion des fascistes dans les années 30. Ils tiennent donc la population par ce qu'on appelle l'assistanat social. Quand vous dépendez d'un logement social, d'aide sociale, d'allocation sociale, vous ne faites pas la révolution et vous ne vous révoltez pas. Ce système a atteint ses limites précisément avec des explosions, par exemple, comme les gilets jaunes. La pensée actuellement du capitalisme, tout d'abord, c'est un peu comme en 1939, c'est la sortie par la guerre, il ne faut pas négliger cela. C'est le reset du système mondial par une troisième guerre mondiale dont les géopoliticiens américains parlent ouvertement, ils la voient vers 2050-2070. Et deuxièmement, c'est le développement de l'assistanat social avec les théories sur le revenu universel qui ne sont pas des théories de justice sociale mais des théories de contentement des masses sociales appauvries. À partir de ce moment-là, je suis d'accord, M. Hubon, que la prochaine crise, on ne va pas la compter en semaine ou en mois. On a vu, lors de la crise de 1929, par exemple, il a fallu des années avant que l'explosion sociale ne se détermine. Je pense qu'on va arriver à la même chose. On va avoir des vagues d'explosion sporadiques dans la rue, et puis on va avoir une vague de fond. Au milieu de tout cela, il y a des gens qui dirigent consciemment cette vague. Ce sont les milieux de la finance internationale, ce sont les dirigeants, les réels dirigeants de l'État profond américain, et on a à côté de ça des dirigeants de base occidentale, les gens comme Macron ou Carter, qui ont un peu l'impression de surfer sur cette vague et de prendre la direction du vent en tendant l'air à doigts mouillés. Ces gens sont incompétents, ils sont incapables, ils font de la politique politicienne au moment où il faudrait des mesures drastiques pour préserver la société. Au moment où la France est au bord de l'explosion, Macron se préoccupe uniquement, ainsi que Marine Le Pen, d'ailleurs qui est sa complice, se préoccupe uniquement des élections présidentielles de 2022. C'est une erreur fondamentale.
Oui. Monsieur Hugon, je me rappelle, dans un débat, que vous avez parlé des Français trop gâtés, donc dans les années précédentes. Et est-ce que les Français, d'une part, sont prêts à souffrir, comme vous prévoyez les années à venir, comme donc l'indique la crise économique dans plusieurs années? Est-ce que les Français sont préparés pour ça? Ou est-ce que le gouvernement va trouver enfin une solution pour éviter cela?
Non, ben je pense que pour éviter une situation catastrophique comme elle va arriver dans les années qui viennent, il faudrait que les responsables politiques aient un courage politique. Or, il faut bien savoir que tous nos politiciens, du sein conseiller aux députés, aux sénateurs, ce sont des gens qui sont d'une lâcheté incroyable. Jamais on a vu, depuis des dizaines d'années, une telle lâcheté des politiques face à une situation qui s'annonce catastrophique. Car il faut bien savoir que la crise financière que nous allons avoir dans les années qui viennent n'est pas comparable à celle de 29. La crise de 29, c'était pas grand-chose. C'était le monde occidental seulement qui était touché. Là, on va impacter le monde entier. Et cette crise financière va déclencher des dizaines et peut-être même des centaines de millions de morts à travers le monde. Car comme vous le savez, on est à l'aube d'une famine mondiale, on est à l'aube d'une pénurie énergétique, donc on arrive vraiment à une situation comme jamais le monde a connue. Et nos politiciens, n'ayant aucun courage, eh bien, aucun d'entre eux n'aura le courage de s'attaquer à ce problème-là.
Oui, des mots très forts de la part de M. Hugon. M. Luc Michel, est-ce que vous... livrez-nous votre analyse sur la question, je vous prie.
Je partage la vie sur la lâcheté des politiciens. On a le cas français où le 1er mai a servi à exposer des ambitions présidentielles dans un pays qui est en crise profonde. Il fallait écouter Le Pen, Mélenchon ou Macron. Mais aussi, la même phénomène existe en Belgique. En Belgique, on parle de la prochaine réforme de l'État, comme si la vie d'avant allait reprendre son avant. Ce n'est pas le cas. Les politiciens, au milieu de tout ça, ils recherchent les vieilles recettes. La crise, elle est effectivement mondiale. Et quand on voit Macron évoquer le New Deal de Roosevelt à propos de l'Afrique, on voit qu'il méconnaît ce qui se passe. Ça se passe au moment où il y a justement la reconstitution d'une guerre froide avec des blocs militaires, un bloc américano-occidental en crise profonde, un bloc de l'Est qui se porte beaucoup mieux. On voit surtout qu'au niveau de ce bloc de l'Est, il y a des modèles sociaux alternatifs. Le seul pays qui s'en sort au niveau de la crise du Covid actuellement, c'est la Chine. La Chine qui, contrairement à ce qu'on raconte, ne pratique pas un capitalisme d'État, mais une économie dirigée, qui a maîtrisé la pandémie, on fait du tourisme actuellement à Wuhan, et qui a offert des perspectives à sa population. C'est le seul pays qui connaît actuellement une croissance. Et ce modèle chinois qui émerge au moment où le modèle occidental se trouve va évidemment avoir des conséquences en Afrique, par exemple, ou en Amérique latine. Je partage tout à fait l'avis de mon collègue sur le fait que les politiciens non seulement ne maîtrisent pas, mais n'ont pas le courage qu'il faudrait face à cette crise, comme l'ont eu certains politiciens dans les années 20 ou 30. Cette génération-là n'existe plus, le bien public n'existe plus. Nous avons une génération de nains politiques qui pratiquent l'ambition personnelle, la corruption et l'hédonisme.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous laisse toutes et tous à la garde de Dieu. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le subterfuge de la stagflation, le vrai désastre caché par la pandémie. La dernière fois, nous vous avons présenté la première partie d'un article rédigé par l'économiste américain Brandon Smith qui a expliqué l'effondrement économique que provoqueront inévitablement les confinements déments qu'imposent plusieurs gouvernements, dont celui des États-Unis. Voici maintenant la suite de cette étude. Les économistes traditionnels affirment souvent que l'augmentation des rendements et de l'inflation est une bonne chose. Ils affirment que c'est un signe de reprise économique rapide. Mais Brandon Smith n'est pas de cet avis. Pour lui, si inflation et reprise étaient identiques, il n'y aurait pas eu d'effondrement économique total en Argentine en 2002, en Yougoslavie en 1994 ou à Weimar en Allemagne au début des années 20. Gardez à l'esprit que tout cela est fait au nom de la réponse à la pandémie. La pandémie est l'excuse ultime pour la destruction active de l'économie américaine. Les mesures de relance sont traduites par le lancement aléatoire d'argent par hélicoptère, des milliards étant siphonnés principalement par les grandes entreprises et par la fraude. Les personnes qui réclament un chèque de 2 000 $ au gouvernement n'ont aucune idée que l'aide sociale aux entreprises se produit depuis un an avec des milliards de remboursements d'impôts rétroactifs. Toute cette impression d'argent va causer des dégâts quelque part. On ne peut pas l'éviter. Mais en fait, il ne s'agit pas de la pandémie. Mettons d'abord les choses au clair. La pandémie n'est pas la raison de cette vague de stimulation. La pandémie a très peu nui aux entreprises américaines. Ce sont plutôt les confinements qui ont fait le plus de dégâts. Pensez-y un instant. Les gouvernements fédéraux et des États ont écrasé l'économie par des mesures de confinement, puis ont proposé comme solution de vastes mesures de relance, ce qui à son tour détruit la stabilité financière et génère une inflation rapide des prix. les États et les comtés conservateurs qui ont refusé de fermer leurs portes se remettent beaucoup plus vite que les États gauchistes qui ont imposé des restrictions draconiennes à leurs citoyens. Pourtant, les confinements n'ont rien fait pour arrêter la propagation de la COVID-19 dans les États bleus. Ainsi, les confinements n'ont apporté aucun avantage perceptible pour le public, mais elles ont donné à la Banque centrale une parfaite justification pour éroder davantage le dollar. Cette inflation des prix qui en résulte est quelque chose à laquelle même les États rouges ne peuvent pas échapper. Par exemple, les prix des logements augmentent rapidement au-delà de la bulle du marché de 2006. Cela est dû en partie au fait que des millions de personnes participent à une migration qui est peut-être la plus importante aux États-Unis depuis la Grande Dépression. Tous ceux qui en sont capables quittent les grandes villes pour s'installer dans les banlieues et les zones rurales. Mais les prix des maisons ont aussi l'habitude historique de gonfler en même temps que la dévaluation de la monnaie. Le coût de l'entretien et de la rénovation d'une vieille maison ou de la construction d'une nouvelle maison augmente à mesure que les prix de produits de base comme le bois d'œuvre enflent. La majorité des produits de base continuent de connaître une inflation générale des prix. Les prix des denrées alimentaires et de l'énergie ont augmenté au cours de l'année dernière. Les gouvernements accusent une fois de plus la pandémie et les tensions sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui était peut-être une affirmation crédible il y a 9 mois, mais plus aujourd'hui. Tout est fait pour cacher le fait que toutes ces mesures de relance ont des conséquences inflationnistes catastrophiques pour le petit peuple. La dévaluation du dollar est la plus visible en termes de biens importés. En d'autres termes, il coûte plus cher d'acheter des biens en dehors des États-Unis lorsque la valeur du dollar baisse. Et comme la majorité des commerces de détail américains sont approvisionnés par des producteurs étrangers, cela signifie que les consommateurs américains moyens subiront le plus gros des conséquences inflationnistes. Le stress et la colère du public seront élevés. C'est pourquoi le confinement en raison de la COVID-19 doit se poursuivre et la machine à propager la peur de la pandémie doit rester active. Les globalistes ont besoin d'un événement de couverture pour le reset. Ils doivent garder les citoyens sous contrôle et la pandémie peut être blâmée pour à peu près tout. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous voyons déjà les médias faire l'apologie de l'existence des mutations du virus de la COVID-19, dit Brandon Smith. La stagflation entre en jeu à cause des pertes dans certains secteurs de l'économie, du chômage élevé et de l'incapacité des salaires à suivre les coûts. Il y a le démantèlement continu du secteur des petites entreprises qui, une fois encore, est détruit délibérément. Ce n'est pas une erreur que les petites entreprises aient été principalement ciblées comme non essentielles pendant les confinements. Ce n'est pas non plus une coïncidence si la majorité des prêts PPP COVID-19 ont été accordés à des sociétés de grande envergure alors que les petites entreprises n'ont presque rien reçu. Le secteur des petites entreprises est en train de disparaître, ne laissant que le secteur des corporations pour subvenir aux besoins des consommateurs. Les prix vont continuer à augmenter en raison de la dévaluation du dollar, mais les médias et le gouvernement diront que cela n'a rien à voir avec le dollar et que cela a tout à voir avec le fait que les entreprises augmentent les prix en rayon pour compenser l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. La plus grande menace dans l'histoire de la société américaine. L'administration américaine fera tout ce qui est en son pouvoir pour détourner l'attention du public de la plus grande menace de l'histoire de la société américaine, la bombe à retardement de la stagflation. S'ils admettent son existence, alors le public pourrait s'y préparer. et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Si les Américains décentralisaient leurs économies locales, soutenaient les petites entreprises locales plutôt que les grandes surfaces, se mettaient à produire des biens de première nécessité et s'ils commençaient à développer des alternatifs monétaires et comme des monnaies locales adossées à des produits de base, alors ils seraient en mesure de survivre à une crise financière nationale. Toute communauté, comté ou État qui prend ces mesures sera immédiatement visée par le gouvernement fédéral, ce qui révèle encore plus la vérité. L'establishment veut que le public souffre. Ils veulent un désastre économique. Ils ne veulent pas que les gens aient la possibilité de prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont besoin de gens effrayés, désespérés et malléables, où ils ne réaliseront jamais leur agenda de grand reset.
Thank you.